Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Trois lectures maintenant pour la prédication. Ésaïe 53, les versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Maintenant l'Évangile, Luc 24, 44 à 47. Le Seigneur ressuscité rejoint les 12, les 11, qui sont aussi avec les disciples d'Emmaüs. Ils sont surpris, ils croient voir un esprit et Jésus leur démontre qu'il est ressuscité, qu'il a un corps, il mange devant eux et voici ce qu'il leur dit. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et puis, bien sûr, encore une lecture dans le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15, et nous lisons les 6 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a été vu par Cephas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés.
Si je ne connaissais rien du passé, je ne saurais ni qui je suis, ni d'où je viens, ni où je vais. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans nos cœurs, c'est comme si nous n'avions aucune information d'où nous venions et où nous allons. Donc nous comptons sur le Saint-Esprit qui nous permet de saisir et comprendre notre passé selon la Bible qui a préparé l'avenir. Alors, Pâques, c'est quoi ? C'est quoi Pâques ? Amen ! Exactement ! La Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Alors la question suivante, la résurrection, c'est quoi ? C'est quoi la résurrection ? Eh bien la résurrection, c'est un être qui était vivant, qui est mort et qui est de nouveau vivant. Voilà, c'est ça la résurrection. Donc c'est un être qui était vivant, qui est mort et qui est de nouveau vivant. Trois étapes, vivant, mort, de nouveau vivant. Ça va, c'est important cet élément qu'on va voir ce matin puisqu'il nous sera utile. Dans la Bible, nous avons deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous parle de la vie de Jésus, de sa mort, de son retour à la vie et tout ce que cela signifie. L'Ancien Testament, en fait, prépare la venue de Jésus ainsi que son œuvre et sa signification. Alors, je continue avec les questions. Il y a des questions ce matin. Désolé, ça vous réveille peut-être. Mais l'Ancien Testament parle-t-il de la résurrection de Jésus-Christ ? Roland vous a un peu aidé tout à l'heure, hein, puisqu'il a lu le psaume 16. C'est vrai que le psaume 16:10 est souvent cité, hein, où il est écrit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. » Ça parle de résurrection. Ah bon ? En fait, si on utilise souvent ce texte-là, c'est parce que Pierre l'a utilisé lors de la Pentecôte. Regardez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 29. Acte 2, 29. Donc c'est Pierre qui est en train de parler à la foule. Il a lu plusieurs, il a cité des textes de l'Ancien Testament. Et voici ce qu'il dit. « Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David. » Donc, qui a parlé justement de ce texte qu'on a lu tout à l'heure, qu'il est mort, David est mort, qu'il était enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui est, en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. » Voilà, donc Pierre nous aide à comprendre que ce texte parle de la résurrection. Nous avons lu tout à l'heure le texte d'Ésaïe 53, les versets 10 à 12, qui parle d'être livré, sacrifié, brisé par la souffrance, une tourmente dans l'âme qui représente la mort, et ensuite il est dit qu'il prolongera ses jours, qu'il justifiera beaucoup. En fait, ce texte d'Ésaïe s'applique à Jésus-Christ, qui est mort en sacrifice et qui est revenu à la vie et prolongera ses jours pour toujours et justifiera beaucoup. Voilà, déjà deux textes qui nous parlent de la résurrection dans l'Ancien Testament. Ce sont des textes plutôt explicatifs, hein, qui nous préparent à la résurrection de Jésus-Christ. Mais l'Ancien Testament nous prépare aussi à la résurrection par différents récits, en fait. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. J'aimerais vous convaincre que la notion de la résurrection imbibe déjà tout l'Ancien Testament. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette prédication « La résurrection préparée par l'Ancien Testament ». Et nous allons voir 6 énigmes, donc c'est-à-dire je vais vous donner 6 phrases et vous avez déjà essayé de réfléchir mais à quoi ça correspond et donc qui vous permettront de voir chaque fois les 3 étapes de la résurrection. Vous vous souvenez des 3 étapes ? Vivant, mort, revenu à la vie. C'est ça, ces 3 étapes. Donc je vais vous donner les 6 énigmes, essayez déjà de les trouver puis ensuite on va les voir l'une après l'autre et vous verrez si c'était juste. La première, tout disparaît et tout renaît. C'est la première énigme. La deuxième, sacrifié, il est rendu. Sacrifié, il est rendu. Troisièmement, disparition. C'est ce que c'est une disparition. Et réapparition. Okay? Ensuite, quatrième élément, un fils unique mort qui revient à la vie. Cinquième, sorti de l'abîme. Et le sixième, chassé des vivants et rétabli. Vous êtes d'accord que tout ce que je viens de vous dire a quand même un peu un lien avec la résurrection ? Eh bien, nous allons justement voir tous ces éléments ensemble. Alors, avez-vous déjà trouvé quelques énigmes ? Bon, ben on va voir, on va commencer par la première. Donc, tout disparaît et tout renaît. C'est dans le livre de la Genèse que nous allons voir la première énigme. Dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'un jour, tout a disparu dans un immense, énorme, monstrueux, cataclysmique inondation recouvrant le monde entier. La vie sur terre existait, puis tout est mort sous l'eau, et ensuite est revenu à la vie. Noé a été témoin de cette mort et résurrection de la terre, qui permet de comprendre le jugement qui a précipité le monde dans la mort et la résurrection avec tout ce que l'arche contenait. Vous trouvez ça dans Genèse, au chapitre 6. Je vais vous lire quelques versets dans Genèse 6, verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tout être vivant, car la terre est pleine de violence, et à cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. » Verset 17. « Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. » Et vous trouvez tout le récit dans Genèse 6 à 9. Après la mort de tous les êtres vivants sur la terre, c'est comme la résurrection, on pourrait dire. Noé et sa famille et les animaux sortent de l'arche et vont repeupler la terre. C'est un nouveau commencement. Alors, ce qui est différent avec Jésus, c'est que Jésus, lors de sa résurrection, reçoit un corps nouveau qui ne meurt jamais. Alors que Noé et tous les êtres qui étaient vivants dans l'arche, eh bien, sont morts après le déluge. Par contre, ce qui est semblable à Jésus dans cette histoire, c'est que la première création a été engloutie et qu'elle n'existe plus. La seule chose qu'on peut trouver dans le monde entier, ce sont des fossiles, jusque sur les plus hautes montagnes d'ailleurs, de tout ce qui existait avant. Le jugement de Dieu, représenté par les eaux, se sont abattus sur la terre comme sur Jésus-Christ à la croix. Donc tout disparaît dans le déluge et tout renaît après la sortie de l'arche. Tout disparaît dans le déluge et tout renaît après la sortie de l'arche. Comme Jésus a disparu dans la mort et est vivant après la sortie du tombeau. Comme Jésus qui a disparu dans la mort et est vivant après la sortie du tombeau. Dans la mort de Jésus, il y a un engloutissement comme lors du déluge. Et comme cela aussi est manifesté par le baptême, lorsqu'une personne est engloutie dans l'eau pour ensuite ressortir vivante de l'eau. Et en fait, tous les baptisés ici sont des ressuscités. Pas parce que le baptême a fait cela, le baptême ne vous ressuscite pas, évidemment. Parce que le baptême, en fait, représente ce qui s'est passé spirituellement. Voilà pour la première énigme. La deuxième énigme qui s'intitule « Sacrifié, il lui est rendu ». Alors nous restons dans le livre de la Genèse. Et ce récit historique donc, se trouve dans ce même livre, c'est quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Donc vous trouvez ça dans Genèse 22. Donc vous étiez dans Genèse 6 à 9, on va un peu plus loin dans Genèse 22. Voici ce que Dieu dit dans le verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham est décidé. Il va obéir à Dieu, même s'il ne comprend pas. En fait, dans sa tête, Isaac est déjà mort. Mais il a un espoir. Et en fait, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous révèle cet espoir. Ce n'est pas écrit dans Genèse. Mais Hébreux nous dit quelque chose, et je vais vous le lire. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. » Écoutez ici l'espérance que Abraham avait. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Alors, Dieu n'a pas laissé Abraham mettre son fils à mort. Hein? Il l'a arrêté au dernier moment, alors que son père faisait le geste fatal. Et Dieu a pourvu par un substitut, un bélier, qui a pris la place d'Isaac, qui a été rendu à Abraham, et qui l'a reçu un peu comme une résurrection. Hein? Pour lui, son fils était mort. Et il l'a reçu vivant. Alors, ce qui est différent d'avec Jésus, c'est que le Père de Jésus ne s'est pas arrêté juste avant le sacrifice. Jésus est réellement mort en sacrifice et il est notre substitut. Ce qui est semblable avec Jésus, c'est qu'il a été sacrifié par son Père et qu'il lui a été rendu. Et qu'il a eu une descendance spirituelle. Abraham a sacrifié Isaac, qui lui est rendu juste avant l'acte fatal. Hein, donc Abraham a sacrifié Isaac, qui lui est rendu juste avant l'acte fatal. Dieu le Père a sacrifié son fils, et à la résurrection, il est rendu à son Père. Hein, Dieu le Père a sacrifié Jésus son fils, et à la résurrection, il est rendu à son Père. Alors, lorsque nous pensons au sacrifice que Dieu a fait pour nous sauver, nous devrions en fait avoir toute confiance dans ce qu'il est prêt à faire pour nous garder. Hein, Romains 5, verset 10 devrait être dans vos cœurs, mais profondément. Voilà ce qu'il est dit. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc ça c'est le sacrifice qu'il a fait, écoutez la suite. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc si Dieu est allé jusqu'à sacrifier son fils pour nous sauver, mais que ne va-t-il pas faire pour nous garder dans ce salut? Après deux énigmes dans la Genèse qui nous ont permis de comprendre que le déluge et le sacrifice d'Isaac étaient déjà des images de la résurrection, nous allons passer au deuxième livre de la Bible. Bon, vous aurez compris qu'on ne fera pas chaque livre, hein. J'ai que six énigmes. Mais voici l'énigme suivante, c'est dans Exode. Le titre de l'énigme, c'est « Disparition et réapparition ». Nous voici donc dans ce livre de l'Exode, un homme apparaît, il est sauvé des eaux, et ensuite il disparaît, comme mort pendant 40 ans. Et après ces 40 ans, Dieu appelle Moïse depuis un buisson ardent et l'envoie en Égypte pour sauver son peuple. Si vous étiez hébreu, vous auriez vu Moïse vivre pendant 40 ans. C'est d'ailleurs à peu près le même âge que Jésus, a, voilà, quelques années près, avant sa mort. Puis il disparaît, parce que le Pharaon veut le mettre à mort. Et vous n'en entendez plus parler pendant 40 ans. Imaginez quelqu'un, vous n'entendez plus parler pendant 40 ans. Nous, en lisant nos Bibles, en 2-3 versets, pouf, il est de nouveau là. 40 ans. Alors, il y en a qui n'ont pas 40 ans ici, donc ça fait beaucoup plus long que votre vie encore. Il était mort, disparu. Puis tout à coup, il est là, comme ressuscité pour aller chez le Pharaon et pour conduire le peuple hors d'Égypte, où il le mène au Sinaï, où il donnera la loi, etc. Alors ce qui est différent avec Jésus, c'est que Jésus n'a pas cherché à gouverner maladroitement avant d'être mis à mort. C'est ce que Moïse a fait en fait. Et c'est pour ça qu'il a été chassé. Non, Jésus n'a fait aucune erreur. Mais ce qui est semblable, c'est que Jésus a vécu avec son peuple, même s'il venait de la cour du roi, et même du roi des rois, et qu'il a disparu 3 jours avant de réapparaître ensuite et faire sortir son peuple de l'esclavage du péché. Moïse a disparu pendant 40 ans avant de réapparaître pour sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. Hein, Moïse a disparu pendant 40 ans avant de réapparaître pour sortir son peuple de l'esclavage. Jésus a disparu 3 jours avant de réapparaître pour sortir son peuple de l'esclavage du péché. Jésus a disparu 3 jours avant de réapparaître pour sortir son peuple de l'esclavage du péché. La disparition et réapparition de Jésus nous indique qu'il a tout accompli. Il n'y a pas besoin de combattre le Pharaon. Il l'a fait pour nous. Relisez le texte dans l'Exode, c'était une image. Nous sommes invités en fait à le suivre hors du pays de l'esclavage et agir par amour en suivant ses paroles. Donc si cette semaine, vous avez le choix entre une bonne et une mauvaise action, eh bien je vous encourage à vivre la bonne par amour pour celui qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. Alors si nous voyons que la Bible des Genèse et Exode nous habitue au cycle de la résurrection, hein, vie, mort, retour à la vie ou de nouveau vivant, nous avons même des exemples de résurrection, en fait. Et ça, c'est notre prochaine énigme. La prochaine, c'est un fils unique mort qui revient à la vie. Est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agit ? Samuel n'est pas mort et ressuscité, mais c'est vrai que c'est une belle histoire de, qu'il n'y avait pas de vie et que Dieu a donné la vie, c'est vrai. Joli, je noterai. Mais cette histoire se déroule, ou en fait, ces histoires, parce qu'il y en a deux, se déroule dans le livre des rois, dans Un roi et deux rois. C'est là que nous trouvons ces deux récits historiques. Le premier dans Un roi 17, qui nous parle du prophète Élie, qui est hébergé par une veuve qui vivait avec son fils unique. Et en fait, ce fils meurt. Élie prie Dieu pour qu'il lui redonne la vie, et le fils unique de la veuve de Sarepta ressuscite, trouve la vie. Le deuxième dans Deux rois 4, nous parle en fait du prophète Élisée, qui est hébergé donc par une Tsunamite qui n'avait pas d'enfant, à qui Dieu a donné un fils, et ce fils meurt. Élisée prie Dieu pour qu'il lui redonne la vie, et le fils unique de la Tsunamite, enfin le fils unique vivant de la Tsunamite, ressuscite. Donc, puisqu'il est décédé, ce fils unique vivant est mort, Élisée a prié, il est vivant, il est ressuscité. Dieu nous montre par ces deux exemples, d'ailleurs assez particuliers, puisque Élie et Élisée sont les prophètes qui annoncent la venue de Christ, avec aussi Jean-Baptiste et Jésus-Christ, enfin voilà, il y a beaucoup de parallèles. Mais Dieu nous montre par ces résurrections qu'il est capable de redonner la vie à qui il veut, quand il veut. Alors ce qui est différent avec Jésus, c'est qu'il n'y a personne qui s'allonge sur Jésus quand il est dans le tombeau pour le réchauffer, et personne qui prie à côté de lui pour qu'il ressuscite, hein? C'est Dieu, en fait, qui l'a ressuscité. C'est Jésus-Christ, même par sa propre puissance, qui est sorti du tombeau. Mais ce qui est semblable ici à Jésus-Christ, c'est qu'il est le Fils unique bien-aimé de Dieu, qui est mort et qui est revenu à la vie. Le Fils unique de la veuve de Sarepta et de la Tsunamite sont morts, mais Élie et Élisée prient Dieu et le Fils unique de chacune revient à la vie. Donc le fils unique de la veuve de Sarepta et de la Tsunamite sont morts, mais Élie et Élisée prient Dieu et le fils unique de chacune revient à la vie. Jésus, le fils unique, est mort et Dieu le Père le ramène à la vie. Jésus, le fils unique, est mort et Dieu le Père le ramène à la vie. Si Dieu a pu ramener à la vie ses trois fils uniques, il peut encore ramener à la vie spirituelle de nombreuses personnes. Donc n'hésitons pas à prier afin que Dieu ressuscite encore ceux qui autour de nous sont morts spirituellement. Il a la puissance de le faire. L'arche de Noé, Isaac vivant, Moïse réapparu, les fils uniques revenus à la vie. Or j'espère que nous commençons à comprendre que tout l'Ancien Testament nous prépare à la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas fini. Nous arrivons au cinquième. Sorti de l'abîme. Ça vous dit quelque chose? Qui est sorti de l'abîme dans l'Ancien Testament? C'est un prophète, c'est juste. Et il y a d'ailleurs même plusieurs personnes qui sont sorties de l'abîme intérieur, comme on le voit dans le livre des Psaumes, c'est vrai. Mais il y en a un qui est sorti de l'abîme du fond des eaux, qui a même été dans une tombe mouvante pendant 3 jours et 3 nuits. C'est Jonas, exactement. Jonas est en quelque sorte mort pendant 3 jours. Il était dans un tombeau poisson. Et c'est lorsque le poisson l'a recraché sur le bord de la mer que Jonas peut à nouveau vivre. Jésus a d'ailleurs dit à ses contemporains que l'histoire réelle de Jonas était une illustration de ce qu'il allait vivre. Matthieu 12, verset 40, qui est d'ailleurs le texte qui me convainc des 3 jours et 3 nuits. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est dit dans Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Or, ce qui est différent entre Jésus et Jonas, c'est que Jésus n'a jamais fui la volonté de Dieu. Jamais. Et qu'il était rempli de compassion, même pour ses pires ennemis. C'est tout l'inverse de Jonas, de ce côté-là. Par contre, ce qui est semblable, c'est qu'il est mort volontairement. D'ailleurs, même Jonas, c'est lui qui a dit qu'il fallait le jeter. Qu'il a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, et qu'ensuite il est revenu à la vie. Donc Jonas est jeté dans l'abîme, il est 3 jours dans un poisson, puis il est vomi vivant de son tombeau immergé. Jonas est jeté dans l'abîme, il est 3 jours dans un poisson, puis il est vomi vivant de son tombeau immergé. Jésus est jeté dans le plus profond abîme qui n'existera jamais. Il est mis dans un tombeau, et 3 jours plus tard, il est quelque part vomi hors de la terre, si vous voulez. Donc Jésus est jeté dans le plus profond abîme qui n'existera jamais. Il est mis dans un tombeau et 3 jours plus tard, il est comme vomi vivant de la terre. Or, si Dieu a pu sortir Jonas de l'abîme et que Jésus a été dans l'abîme que je ne devrais jamais affronter, parce qu'il faut se rendre compte que Jésus a été dans l'abîme le plus profond pour que nous n'ayons jamais à y aller. Rappelons-nous donc qu'il n'y a pas d'abîme trop profond où Dieu ne pourrait nous retirer. Il le peut, il l'a fait et il le fera encore. Or, le déluge, le sacrifice d'Isaac, la disparition de Moïse, la mort du Fils unique et Jonas dans le ventre du poisson n'ont pas arrêté Dieu pour faire renaître, pour délivrer, pour faire revivre. Alors, j'aimerais voir avec vous un dernier exemple qui, je l'espère, nous aidera encore un peu plus à comprendre que l'Ancien Testament nous préparait à la résurrection de Jésus-Christ. Or, la dernière énigme, c'est « chasser des vivants et rétabli ». Exact. Pour terminer, nous allons voir la situation d'un homme qui vivait dans une splendeur sans pareille. Et je crois d'ailleurs volontiers que ça a été l'homme le plus puissant du monde. Puis un jour, il a complètement perdu la raison. Il a été mis à l'écurie avec les animaux, littéralement. Il était comme mort, il a disparu, rendu inexistant, complètement mis de côté, sans aucun moyen d'agir par lui-même. Nous voyons en fait ici les deux premières phases de la résurrection, de la vie et de la mort en quelque sorte, lorsque Nebuchadnezzar, puisqu'il s'agit de lui, en fait, dit être le plus grand de toute la terre. Et paf, il devient comme un bœuf dans les champs, en train de manger de l'herbe, et puis tout pousse. Enfin bon, là, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais pour montrer en fait qu'il est chassé des vivants, jusqu'au moment où il reconnaît que l'Éternel est Dieu. Et la raison lui revint, et l'honneur de sa royauté et de sa gloire lui est rendu, et sa splendeur en fait ne fait que s'accroître. Cela s'apprend vraiment aussi à une résurrection en fait ici. Et vous trouverez tous les détails, comme Martin l'a dit tout à l'heure, dans Daniel 4. Voici ce qu'il dit d'ailleurs à la fin, ce que Nebuchadnezzar va dire. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Nebuchadnezzar était au plus haut de sa gloire lorsque Dieu le frappe de folie. Alors qu'il se vante de sa gloire, il le fait disparaître des hommes. Alors ce qui est différent d'avec Jésus, c'est bien entendu que Jésus n'a jamais perdu la raison et qu'il n'a jamais été orgueilleux comme Nebuchadnezzar. Mais ce qui est semblable, c'est que Jésus était dans une gloire sans pareille et qu'il est venu sur cette terre avec une limitation encore bien plus grande que Nebuchadnezzar dans son étable. Et qu'après sa résurrection, Jésus a retrouvé la gloire qui ne fait que croître. Donc Nebuchadnezzar a été chassé de sa gloire, il a été abaissé avant d'être rétabli. Nebuchadnezzar a été chassé de sa gloire, il a été abaissé avant d'être rétabli. Jésus a été chassé des vivants étant mis à mort. mais par sa résurrection, et il est rétabli par Dieu dans la gloire. Jésus a, en quelque sorte, été chassé des vivants, étant mis à mort, mais par sa résurrection, il est rétabli par Dieu dans la gloire. Or, si Jésus a connu un tel abaissement en venant sur la terre, il comprend nos abaissements. Il comprend. N'hésitons jamais à lui parler, sachant que maintenant il est dans la gloire et que nous l'y rejoindrons. Alors j'aurais pu vous donner une septième énigme, c'est vrai, un chiffre 7 c'est sympa. Hein, en vous parlant de David, hein, qui avait pourtant bien commencé, il a tué Goliath, vous vous rappelez des chants, il a tué Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000, hein, c'était la gloire. Et voilà que David est forcé à quitter sa maison, se cacher et quitter son pays pendant de nombreuses années. Mis de côté, comme mort. Et c'est seulement après quelques années qu'il revient en Israël comme roi, un peu comme une résurrection. Et nous pourrions continuer. Et je vous encourage à lire l'Ancien Testament avec cette perspective de la préparation à l'arrivée de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vécu, dont sa résurrection. Nous arrivons à la conclusion. Toutes les énigmes sont levées. Donc si je vous dis maintenant tout disparaît et tout renaît, eh bien vous savez que le déluge nous prépare à la résurrection. Si je vous dis sacrifié et puis rendu, eh bien le sacrifice d'Isaac nous prépare à la résurrection de Jésus-Christ. Si je vous dis disparition et réapparition, on pourrait dire la disparition et réapparition de Moïse nous prépare à la résurrection de Jésus-Christ. Si je vous parle d'un fils unique mort et qui revient à la vie, eh bien les fils uniques morts et revenus à la vie des dames que l'on a vues dans l'Ancien Testament, la veuve de Sarepta et la Sunamite, nous préparent à la résurrection de Jésus-Christ. Ou encore quand je vous parle de sortie de l'abîme, ou vomi si vous voulez, Jonas, 3 jours dans l'abîme, est rejeté vivant au bord de la mer et nous prépare à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus lui-même l'atteste d'ailleurs. Et chassé des vivants et rétabli, bien maintenant vous avez cette image de Nebuchadnezzar dans sa gloire, chassé des vivants et rétabli, qui nous prépare aussi à la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Christ est le centre de notre foi. C'est le centre. Et tout l'Ancien Testament nous y prépare. D'ailleurs, Jésus disait dans Luc 24, qu'on a lu tout à l'heure, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » C'est-à-dire dans toute la Tanakh. Alors si Jésus est réellement ressuscité, j'aimerais vous donner encore 4 éléments, nous pouvons être sûrs que nous ressusciterons aussi avec un nouveau corps. Ce qu'aucune résurrection de l'Ancien Testament n'a pu nous montrer. Si Jésus est ressuscité, nous ressusciterons aussi avec un nouveau corps. C'est le prémisse, c'est le premier avec ce nouveau corps et nous l'aurons aussi. Deuxièmement, si Jésus est réellement ressuscité, nous pouvons être certains que Dieu a reçu favorablement le sacrifice de celui qui nous lave de tout péché. Dieu a accepté ce sacrifice. Voilà pourquoi Christ est ressuscité. Il ne pouvait pas rester dans la tombe, pas possible. S'il était resté, c'est que le sacrifice n'avait pas été accepté. Troisième élément, si Jésus est réellement ressuscité, nous pouvons être assurés que nous avons un guide vivant qui nous conduit aujourd'hui. Nous avons un guide vivant qui nous conduit aujourd'hui. Et quatrièmement, si Jésus est réellement ressuscité, nous pouvons être confiants pour un avenir qu'il a préparé pour nous dans sa présence permanente. Nous pouvons être confiants dans un avenir qu'il a préparé pour nous dans sa présence permanente. Donc j'aimerais dire avec vous simplement, gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est un jour de joie. Un jour de joie parce que nous nous rappelons de la vie que tu as donnée à Jésus-Christ après qu'il ait été sur cette terre, abaissé, d'une manière telle qu'on ne peut même pas imaginer. Lui qui était dans la gloire infinie, pourrait-on dire, lui qui est Dieu parfait, est venu parmi nous. Un abaissement que nous n'arrivons même pas à imaginer. Et non seulement il s'est abaissé, mais il s'est donné jusqu'à la mort. mais il n'est pas resté dans le tombeau. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce dimanche de Pâques, nous pouvons nous réjouir que Jésus est vivant. Nous pouvons nous réjouir que tout cela a été même préparé, annoncé, ou même déjà vécu de différentes manières dans l'Ancien Testament pour que nous puissions encore mieux saisir différents aspects de cette merveilleuse résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que ce matin, ici, ceux qui sont morts spirituellement, tu les ressuscites, qu'ils deviennent vivants et qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi avec un cœur en même temps repentant et reconnaissant pour l'œuvre de Christ et heureux de savoir que tu es vivant. Et pour tous ceux qui sont vivants en toi, eh bien, Seigneur, permets que nous ne nous endormions pas, que nous restions, Seigneur, éveillés et que nous nous réjouissions. Permets qu'aujourd'hui soit une journée réellement de joie parce que Jésus-Christ est vivant. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.